trouver ensemble ce matin. Et on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je pense qu'il y a de cela, je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 jours. J'ai entendu, comme vous peut-être à la radio ou à la télévision, qu'une des lois de l'univers que l'on pensait ne jamais pouvoir franchir, vous avez entendu ça ? Le problème de la vitesse de la lumière. Et on s'est rendu compte qu'on pensait que rien n'allait plus vite que la lumière. Et des savants du CNRS et puis du CERN à Genève ont trouvé que des neutrinos, avant j'en avais jamais entendu parler, et vous ? Pas plus. Pourtant c'est important parce que ces neutrinos, ils font une différence infime mais aux conséquences énormes. Ils vont plus vite que la lumière, sous contrôle encore de quelques expérimentations, mais apparemment ça semble confirmé. Et la plupart des personnes que j'entendais, des commentateurs, disaient c'est une grande partie des œuvres de science-fiction sont fondées sur l'idée qu'on puisse voyager dans le temps. Beaucoup de séries à Hollywood, etc., ont cette notion de « et si on pouvait voyager dans le passé, voyager dans le futur ?» Et pour cela, il fallait juste qu'on aille plus vite que la lumière. Mais c'était impossible, donc c'était de la science-fiction, puisque rien ne pouvait aller plus vite que la lumière. Donc on ne pouvait pas voyager dans le temps, ni faire des flashbacks, ni aller en avant. Et là, c'est bouleversant. J'entendais un chercheur à la Sorbonne qui disait « je ne comprends plus, j'ai fait des cours de physique pendant des années et des années à mes étudiants, et là je suis juste troublé. Je suis troublé, je ne veux pas imaginer les conséquences de cela. » Et pourtant, apparemment, un neutrinos peut aller plus vite que la lumière. Et ça remet en cause notre vision de l'univers et ça nous rend un tout petit peu plus petits face à l'éternité. Et moi, le thème de ce matin, c'est « face à l'éternité ». Face à l'éternité. On va ouvrir ensemble notre Bible. Dans le livre des Romains. Face à l'éternité. Il est dit au verset 7, « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu ? Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun de nous, ici présent ce matin, rendra compte à Dieu pour lui-même. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, tu nous donnes l'espérance merveilleuse qu'est la vie éternelle. Seigneur, mais pour nous, nous avons un seul but, garder les yeux fixés sur toi. Et en cette matinée, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, tu nous as donné cette vie pour nous préparer, donne-nous que nous mettions vraiment à profit chaque seconde, chaque minute, chaque cœur, chaque jour, Seigneur. Je te prie pour cette parole, qu'elle puisse rester gravée dans le cœur d'une personne ici pour qui tu veux que cette parole soit donnée. Seigneur, si c'est moi, je veux l'accepter et la prendre comme telle. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence pour comprendre les choses de Dieu en cet instant. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Chacun de nous devra rendre compte devant le tribunal de Dieu, de sa vie. Alors je suis marqué par ça et j'ai réfléchi, j'ai aussi cherché dans la Bible. Et je pense que ce matin, ce message, qui est un message de doctrine, je voudrais que ça puisse remettre au clair des choses que tu n'as pas forcément bien comprises, vers l'éternité. Il y a 2 questions fondamentales que je voudrais qu'on se pose ce matin. où est-ce que je passerai l'éternité ? Première question. Et en général, c'est là que la plupart des chrétiens s'arrêtent. Toutes nos réunions, en général, sont là. Est-ce que tu veux aller au ciel ? Est-ce que tu es prêt pour le ciel ? Est-ce que tu es en règle avec Dieu ? Est-ce que si Dieu revenait aujourd'hui, tu irais dans l'éternité ? Est-ce que tu irais avec Dieu ? Mais il y a une deuxième question. Une deuxième question. La deuxième question, c'est comment est-ce que je passerai l'éternité ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces questions ? Le « où » peut-être, mais est-ce que vous avez réfléchi comment vous allez passer votre éternité ? Je suis effrayé de quelque chose, mais effrayé véritablement, de l'importance de chaque seconde sur la terre. Pourquoi ? Parce que pendant notre vie sur la terre, que l'on vive juste un souffle et que le Seigneur nous reprenne dès notre naissance, ou qu'on vive jusqu'à 100 et quelques années, en fonction de ta vie sur la terre, tu joues ton éternité. C'est-à-dire que, comment vous dire, combien ça fait l'éternité ? Ça fait combien de jours l'éternité ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Ça fait pas 1 000 jours, non. Ça fait pas 10 000 jours, non, non. Ça fait pas 100 000 jours, ça fait pas 1 million de jours, 10 millions, 1 milliard de jours, 1 milliard de milliards de milliards. Et vous imaginez qu'après, c'est non-stop. Nous, on est toujours dans notre espace. Vous voyez, on comprend. Nous, on est vraiment dans l'espace présent. On a déjà du mal à imaginer qu'est-ce qu'il arrivera dans un mois. Eh bien, sachez que vous avez exactement votre vie pour préparer votre éternité. Si je vous disais, il vous reste 24 heures chrono pour gérer votre éternité. En gros, si dans 24 heures, le Seigneur vous reprenait, que ce soit par un accident ou que ce soit le retour de Jésus sur la terre. Si nous restait 24 heures ce matin, qu'est-ce que l'on ferait ? Imaginez comment on gérerait chaque seconde. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Il est à ma montre 10h, 8 minutes et 15 secondes. Si je vous dis que lundi, demain, à 10h, 8 minutes et 15 secondes, vous n'êtes plus là, vous faites quoi ? Là, il y a des personnes qui disent « Bon, déjà, je vais me réconcilier avec un tel. Je demanderai pardon. J'irai voir Jésus. Je passerai tout mon dimanche soir au culte concept. Je vais louer le Seigneur toute la soirée. » Ça changerait énormément de choses. Ça changerait énormément de choses. Et pourtant, ce que vous êtes capable de voir, si on vous dit une limite de 24 heures, vous devriez réaliser que vous jouez votre éternité sur votre vie et que vous ne maîtrisez pas demain et que je ne maîtrise pas demain. Alors la première question, où est-ce que je passerai l'éternité ? Où est-ce que je passerai l'éternité ? Il y a une image que je voudrais vous montrer, c'est l'image d'après. Cela dépend de ce que tu vas faire de Jésus à la croix. Et rien que la croix. Mon professeur d'école biblique m'a posé une question un jour. Il m'a dit, Yvan, pour être sauvé, le salut, la foi plus quoi égale le salut ? Alors j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ? Bon, pour être sauvé, il faut que je croie et que je fasse quoi en plus ? Et que je fasse quoi en plus ? Eh bien la bonne réponse, c'est rien. C'est rien. Parce que la foi est la seule source de ton salut. La partie du « où » elle est extraordinaire parce que ça vient de ce que Jésus a fait à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour nous ouvrir le ciel, c'est-à-dire pour nous dire où on peut aller. Je vous ouvrirai le ciel, je vais vous préparer une place. Le où, il est géré par Dieu. Regardez, si je prends un texte de la Bible, comme vous connaissez bien, je vous lis juste Romains, ne cherchez peut-être pas pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez, mais ça ne va pas s'afficher pour les autres. Dans Romains, au chapitre 3, verset 21. « Maintenant, Dieu nous a révélé comment il nous déclare juste, sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Et ils sont déclarés pourtant justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier, à enlever le péché pour ceux qui croient en son sacrifice. Waouh! 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 Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette vie éternelle? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, la foi, il y a deux manifestations de la foi, c'est la repentance et la conversion. Mais c'est tout simple, et ça tu le sais. Voilà comment tu peux dire en cette matinée, est-ce que tu es sauvé ou pas? Est-ce que tu es sauvé? Ça dépend de la repentance. Ça dépend simplement du fait que lorsque tu vois Jésus sur la croix, tu comprends, c'est ça que ça veut dire la foi. Je comprends qu'à la croix, il est mort pour payer mes fautes, pas les fautes des autres, pas les fautes de la personne avec qui je suis en conflit régulièrement. Oui, c'est vrai aussi, mais aussi pour mes fautes à moi, pour mes péchés. Parce que même si j'ai subi des choses de la faute des autres, moi aussi j'ai ma responsabilité dans ce qui m'arrive dans ma vie. Et il y a des péchés en moi, dans ma façon d'agir, dans mes motivations, dans mes sentiments, dans mes actions. Il y a des fautes. Et tant que tu n'es pas conscient de ce que toi aussi tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu, le ciel n'est pas ouvert. La foi commence par dire « Seigneur, tu es parfait et moi je ne suis vraiment pas à la hauteur. Et j'ai besoin justement que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Lave-moi Seigneur par ton sang et je serai plus blanc que la neige. » C'est ça le qui offre le salut. Qu'est-ce que j'ai mérité là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tant que tu es arrivé là, tu n'as rien fait. Tu as simplement dit « Seigneur, je n'ai rien fait. Aucune de mes œuvres ne me sauve, voyez ?» Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous avez fait des bonnes œuvres. Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous avez eu la bonne religion, vous êtes né dans la bonne famille et du coup vous avez été sympa avec la personne qui était la plus pauvre et qui habite en bas de chez vous. Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous avez pensé à une telle, vous avez prié pour une telle. Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous êtes fidèle dans vos offrandes à l'église. Vous n'allez pas aller au ciel parce que vous savez prendre soin de ceux qui sont autour de vous. Non, non. Vous allez aller au ciel si vous avez reconnu que Jésus-Christ est mort à la croix à votre place et qu'il a pris sur lui votre condamnation. Donc vous arrivez avec un chèque au ciel, un billet, zéro argent personnel. Tout a été payé à la croix. Votre billet d'entrée, c'est pas vous qui avez écrit les chiffres dessus, c'est Jésus. C'est lui qui nous fait aller au ciel. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, moi j'aime énormément ce texte, mais c'est des fois chez les chrétiens évangéliques, on finit par oublier cette base. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Personne n'a de raison. Vous voyez, un pasteur ne va pas plus au ciel qu'une autre personne. On va tous, ou pas, en fonction de la foi. Vous avez compris ça? Et du coup, quand je dis la repentance, il y a la nouvelle naissance. Parce que ça encore, c'est un cadeau. Vous avez réussi à renaître, vous, de nouveau? Non. Nicodème, d'ailleurs, il dit, moi, je ne peux pas... Parce que Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume éternel de Dieu. Puis Nicodème, il dit, mais c'est un truc impossible. Comment, moi, je vais pouvoir re-rentrer dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Et Jésus dit, mais tu n'as pas compris. C'est merveilleux ce que Jésus répond. Il dit... Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle, humaine. Mais celui qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous êtes engagé avec Jésus, que vous avez dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Seigneur, je te laisse les clés de ma vie. On en a parlé dimanche dernier. Je crois. J'ai rien fait. Simplement, je crois. Vous voyez, c'est le fait de lâcher. C'est juste ça qui fait que vous allez au ciel. De lâcher prise sur votre vie et dire, Seigneur, c'est toi que je reconnais comme sauveur et Seigneur. Et vous lui donnez les clés. Et l'Esprit de Dieu, à partir de ce moment-là, scelle une alliance avec vous. Et votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Vous êtes sauvés. Et c'est pour ça que vous devenez immortels. Vous n'avez pas compris pourquoi vous devenez immortels? Parce que votre corps, oui, il va mourir. Hein. Vous allez mourir. Mon corps va mourir. Par contre, il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas mourir. C'est l'esprit. Parce que mon esprit a été, vous voyez, comme greffé avec l'esprit de Dieu. Alors, quand vous avez quelque chose d'immortel qui rentre dans quelque chose de mortel, ce qui est mortel devient immortel. Et c'est extraordinaire. Donc du coup, je n'ai plus à craindre la mort parce que mon esprit est allié avec l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, au moment où Jésus reviendra, au moment où vous partirez, vous envolerez dans les airs à la rencontre du Messie. Il y aura des louanges éternelles parce que on est immortel parce que Dieu vit en nous. Est-ce que vous réalisez la grâce de Dieu ? Il ne faut rien d'autre pour être sauvé. Simplement avoir reconnu l'œuvre de Jésus à la croix, c'est la repentance, et dire « Seigneur, viens dans mon cœur, c'est la nouvelle naissance. » Point final. Point final. Il n'y a rien d'autre à faire pour être sauvé. C'est un don gratuit. Maintenant, je voudrais vous dire, parce que ça, c'est la première question, c'est le « où je vais ». Si tu es en règle avec ça, tu vas où ? Tu vas au ciel. Maintenant, on va se poser une deuxième question. Comment est-ce que je passerai l'éternité ? Comment est-ce que je passerai l'éternité ? Et là, par contre, cela dépend de ton comportement sur la terre. Et je vais vous montrer, on va chercher ensemble dans notre Bible, parce que ce n'est pas la parole d'un homme qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Regardez l'image d'après ce feu-là. Voyez, je ne sais pas si je peux le faire, mais je voudrais vous montrer ce qui va se passer au ciel. On va regarder un verset. C'est tout à la fin des images. C'est dans 1 Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. Vous savez ce que c'est que le fondement ? C'est le salut. C'est vous tous qui savez où vous allez. Et moi, je peux dire, à la rigueur, comme l'apôtre Paul, j'ai qu'un seul but en tant que pasteur de cette église, c'est que vous sachiez où vous allez. Et le seul fondement que je voudrais prêcher, c'est la foi en Jésus et c'est la grâce de Dieu, c'est tout. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. C'est vous. C'est vous. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume, du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la quantité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. La qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Vous me suivez là ? On continue. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé. Mais tout juste. Comme un homme qui réussit à échapper au feu. Vous voyez, le passeport pour le ciel ne dépend pas de nous. Il est offert par Dieu. Vous ne faites pas des bonnes œuvres pour aller au ciel. Ça serait faux. Par contre, il y a quelque chose, c'est que vos œuvres vous suivent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de textes qui parlent des œuvres dans la Bible. Quand vous lisez la parabole des talents, quand vous lisez tous ces passages où Jésus dit « Je récompenserai à celui qui est fidèle, je donnerai. » Et vous voyez qu'il parle à des églises, il parle à des personnes qui sont engagées, qui connaissent Dieu. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, vous voyez, notre vie, je ne sais pas en quoi vous allez bâtir, vous, hein, mais une vie, c'est quelque chose de... À la fois très peu, j'ai pris une feuille de papier, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il va y avoir du feu, quoi. Et si jamais et de l'allumer. Je voudrais juste vous montrer. Ouais, même pas. Bon, si tu veux. Voyez, ça, c'est votre vie. La Bible dit, certains, on va bâtir. Bon, ça, c'est du bois, hein. Vous êtes d'accord? C'est comme de la paille. Et puis, il y a des pierres précieuses. Et je voudrais juste, ouais, si c'est possible de l'allumer, ça va faire un peu de fumée. Peut-être on va avoir une alarme, mais ça ne sera rien par rapport au retour de Jésus. Et juste, vous voyez ce feu, ça sera pareil au tribunal de Christ. Et ça va aller vite, finalement. Et là, vos œuvres sur la terre, en quelques temps... Non, mais pensez que c'est vous, hein. Pensez qu'il y a un moment où on va devoir rendre compte à Dieu de tout ce qu'on a fait. Et après, il reste quoi? Il restera quoi de ta vie? Tu regardes la feuille avec pitié en disant « elle est disparue ». Mais moi, je regarde ta vie, peut-être avec pitié, elle va disparaître aussi. Qu'est-ce qui va rester de tes œuvres? Merci beaucoup. Fermons les yeux un instant. On va fermer les yeux un instant. Je vais faire une pause dans mon message. Réfléchissez. Vous avez vu cette feuille? La Bible dit, en effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Regarde ta vie, là. Pendant que tu fermes les yeux, parce que des fois, en fermant les yeux, on voit mieux les choses. Honnêtement. Aujourd'hui, pour qui tu vis? Est-ce que tu vis pour toi-même? Ou bien est-ce que tu vis chaque jour pour plaire à Dieu? Est-ce que tu vis pour ton bonheur à toi? Ou est-ce que tu vis pour réaliser l'œuvre de Dieu? Rentrer dans les projets de Dieu pour toi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. T'en es où? T'en es où? On est où? Chaque jour compte, mon ami. Chaque jour compte. Le livre de l'Apocalypse dit, oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi les récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Waouh! Vous pouvez ouvrir les yeux, je voudrais vous amener vers deux réflexions avant qu'on se quitte ce matin. Vous voyez, le salut dépend de notre vêtement. Et c'est à la croix qu'on l'obtient. Mais par contre, les récompenses célestes dépendent de nos œuvres. Il est dit, les justes, leurs œuvres les suivent quand vous allez aller au ciel. Pour terminer ce matin, le comment dépend de deux choses, de tes œuvres sur la terre et de tes attitudes sur la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, ça s'affiche sur vos écrans. Il est dit, « Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. » Ça, c'est les attitudes. Ça, c'est vos attitudes. C'est ce que les hommes ne verront pas. C'est ce que votre mari ne verra pas. C'est ce que vos enfants probablement ne verront pas. Que vos amis, que vos collègues de travail ne verront pas forcément. C'est votre lieu secret, votre cœur secret. Et il y a un deuxième aspect, je donnerai à chacun de vous selon ce que lui aurait valu ses actes, Là, c'est les œuvres, c'est concrètement ce que vous avez fait. Alors, regardons ça. Donc, les œuvres, c'est quoi les œuvres ? Les œuvres. Les œuvres, c'est tes actions et tes paroles. Les œuvres, c'est tes actions et tes paroles. Regarde dans l'évangile de Matthieu. Ça ne va pas s'afficher, ça c'est à vous, si vous voulez vous chercher. Matthieu 16. Verset 24. Puis s'adressant à ses disciples. Vous êtes là ce matin ? On est des disciples de qui ? On est des disciples de Jésus. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein. C'est moi qui parle, mais c'est comme si j'étais dans les rangs. Hein. Parce que c'est Jésus qui nous parle. S'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour acheter sa vie ?» Verset 27, « Le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. » Waouh ! En fonction de tes œuvres pour Dieu, en fonction de tes œuvres pour ton prochain. Je crois qu'il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas très généreux avec Dieu et pas très généreux avec leur prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu ? Ce que l'on peut faire pour Dieu, c'est lui donner du temps. Comme quelqu'un qui, dans une relation d'amour, on aime passer du temps avec la personne. Des fois, ça coûte aussi de passer du temps avec quelqu'un. Quand vous voulez construire un mariage, des fois, ça vous oblige à passer du temps avec la personne. Vous êtes fatigué. Vous avez tout simplement envie de vous poser dans le canapé, de regarder la télé. Mais vous dites, mon mariage vaut plus que ça. Je vais prendre ma femme et mes enfants et on va aller au parc ensemble. Il y a un moment où vous n'avez pas envie d'y aller. Mais une fois que vous y êtes, vous dites, ah, c'est vraiment un bon choix que j'ai fait. J'ai passé du temps de qualité avec vous. C'est pareil avec Dieu. Avec Dieu, on peut passer du temps avec lui. Combien de temps tu passes avec Dieu ? Comment tu parles à Dieu ? Ça s'appelle la prière, tout simplement. Est-ce que tu en es dans ta communication avec Dieu ? Il y a aussi, tu peux donner ton temps, tu donnes ton service. Moi, je le fais parce que j'aime Dieu. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui consacrer aussi de l'énergie. Je sais que chaque fois que tu donnes, la Bible dit, un verre d'eau au moindre des petits, c'est à moi que tu l'as fait, dit Dieu. Donc vous voyez, à chaque fois que l'on sert les autres, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prend soin de notre prochain, c'est pour Dieu qu'on le fait. J'ai cette anecdote que je voudrais vous dire, elle m'a marqué, c'est le pasteur Michael French qui me l'a raconté lorsqu'il était de passage ici il y a quelques mois. Il me parlait d'une femme qui est cadre dans une très grande entreprise. Elle était responsable du service de comptabilité. Et cette femme était fâchée. Parce que vous voyez ce qui s'est passé, c'est que dans cette entreprise, tout le monde avait eu le droit à une augmentation presque. Parce que c'était elle qui faisait la comptabilité, c'est elle qui avait dû, sous les ordres du chef d'entreprise, augmenter tout le monde. Et elle avait augmenté toutes ses collaboratrices. Et quand elle arrivait pour sa paye à elle, il n'y a eu aucune remarque d'augmentation. Alors qu'elle travaillait comme une folle pour l'entreprise. Et vous voyez, elle était fâchée, elle dit « Mais Dieu, je croyais que tu es celui qui est le juste juge. J'ai travaillé sérieusement. Elle, c'était quelqu'un qui était fidèle dans son église, qui était impliqué dans son église, qui donnait même, vous savez, sa dîme pour son église. Elle était fidèle dans ce domaine aussi. Elle dit « Seigneur, moi j'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi je n'ai pas d'augmentation ?» Alors elle a décidé à partir de ce jour-là, secrètement dans son cœur, de faire une grève de la dîme. Elle a dit « Dieu, tu ne m'augmentes pas, moi je n'augmente pas non plus, j'enlève même. » Et pendant quelques mois, elle a fait sa grève. Elle allait au culte fâchée, elle rentrait du culte fâchée. Elle écoutait le pasteur qui dit « Sois fidèle et Dieu te bénit ». Elle dit « Je suis fidèle, Dieu ne m'a pas béni ». Et elle gardait comme ça. C'est un peu sa colère, sa dîme et sa colère pour elle. Et un jour, dans une réunion, il y a eu une parole de Dieu qui a été donnée, une prophétie, et la personne a dit « Depuis quelque temps, tu es en colère contre Dieu. Et tu retiens pour lui ce que tu lui donnais, ce que tu avais engagé, ce que tu t'étais engagé à faire avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à reconsidérer ton choix ce matin ? Et cette femme a dit « Ok, Seigneur. » Mais vous voyez, un petit peu comme pour provoquer Dieu. Elle a dit « D'accord. » Et elle a fait son rattrapage de dîmes. Ça, c'est un truc très évangélique, ça. Et elle l'a fait. Mais elle l'a fait en colère, vous voyez. Elle l'a fait, mais vraiment pour obéir. Hein. En général, dès qu'on parle d'argent, on le fait. On a du mal à le faire avec joie. Parce qu'on est tellement matérialiste. Et elle l'a fait, mais vous voyez, ça lui a... Écoutez. Un mois après, elle a rendu témoignage. C'était cette réunion où le pasteur Michael French était. Et elle dit, je voudrais vous dire quelque chose. J'étais en colère contre Dieu. J'ai choisi d'arrêter de lui donner. Parce que je considérais qu'il ne m'avait pas assez béni. Et j'ai changé d'attitude parce que je me suis senti reprise un matin par le Seigneur. Et je voudrais vous dire que le lundi matin, il y avait eu le culte le dimanche, que le lundi matin, j'ai eu un coup de téléphone. Elle était basée dans un autre état, mais c'était le directeur qui lui disait « Viens en Californie », le directeur général de toute l'entreprise, qui dit « Viens en Californie tout de suite ». Elle dit « Là, c'est la fin. Convoqué, le billet d'avion est payé, ça c'est le licenciement, ça sent le licenciement à plein nez ». Elle est arrivée dans le bureau du directeur le lundi matin et elle était en tremblant. Et là, le directeur lui a dit « Madame, je me suis rendu compte qu'une énorme injustice vous avait été faite. Depuis des mois, vous n'avez pas été augmenté. Alors je viens le corriger. Donc je voudrais vous dire qu'à partir de maintenant, vous savez, c'est extravagant les sommes aux États-Unis, hein. Je vous fais immédiatement un chèque de $50,000 pour vous dire pardon. Elle s'est mise à fondre en larmes. Et elle a pensé à ce qu'elle avait fait juste le dimanche d'avant. Elle dit, Seigneur, je devrais arrêter ma mentalité de négociatrice avec toi. Parce que Dieu, de toute façon, est extrêmement généreux. Vous savez que tout ce que l'on fait pour Dieu, Dieu le voit. N'attendez pas une récompense immédiate. Dieu est Dieu. Mais tout ce que je fais sur la terre a un jour une conséquence. Et la Bible dit, celui qui abandonnera des choses pour moi, il recevra au centuple ici, mais aussi dans l'éternité. Il y a des fois où on ne voit pas sur la terre ce que l'on a semé. La Bible dit, l'un sème, mais c'est un autre qui récolte. Alléluia. C'est dur, hein, pour le semeur, de dire c'est un autre qui a fait la récolte. Mais Dieu dit, à chaque fois que tu sèmeras quelque chose, tu récolteras au ciel. Et c'est pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'on a à cœur de bénir Dieu. Et on sait et réalise que Dieu tient compte sur son registre de tout ça. Pareil pour vos paroles, méfiez-vous. Je voudrais juste vous dire aussi qu'il y a un verset qui dit, tu devras rendre compte de chaque parole que tu prononceras sur la terre. Chaque parole, même futile. C'est pour ça, attention à ce que l'on fait. Ce n'est pas une parole mauvaise qui nous fermera le ciel, d'accord ? Est-ce que vous me comprenez la différence ? Le « ou » ne dépend pas de ta parole. Ce n'est pas parce que... Moi, j'étais en panique une fois parce que j'ai dit... J'avais pris mon baptême et j'ai dit un gros mot, mais vraiment énorme, qui est venu comme ça. Yvan, mais c'est... Est-ce que c'est parce que je fais ça ? Alors que j'avais promis d'être fidèle à Dieu, je dis des choses comme ça, mais c'est ça, je me salis, peut-être que je perds mon salut. Non, tu ne perds pas ton salut pour autant. Parce que le salut dépend de l'œuvre de Jésus à la croix. Dès que tu es repentant, le Seigneur ne va pas effacer et écrire ton nom dans le livre de vie, c'est écrit. Par contre, ce que tu fais sur la terre a un impact sur la notion de récompense au ciel. Je voudrais terminer avec ce point sur les attitudes. Parce que vous allez me dire, il faut que je fasse pour recevoir, etc. Mais non, puisque, dernier point, tes attitudes sur la terre. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ton humilité et Dieu voit tes motivations. Vous savez que des fois, on fait des choses pour obtenir un gain. pour être vu. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu récompensera l'humilité des justes, que Dieu récompensera les motivations. Il voit nos motivations. Il y a plusieurs textes. Il dit « Je sonde les cœurs et les reins. Je vois à l'intérieur, je sépare comme dans un os. Je peux couper l'os en deux et voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et des fois, on fait des choses pour Dieu avec des mauvaises motivations. Des fois, on fait des choses pour Dieu pour se faire voir, pour qu'on dise « Ah, c'est quelqu'un de spirituel. » Eh bien, vous savez ce que dit la Bible dit de ça ? Eh bien, vous avez déjà eu votre récompense sur la terre. Si vous le faites pour vous faire voir, c'est ce qu'ils disaient des pharisiens. Les pharisiens, ils faisaient des choses très bien pour Dieu. Ils allaient au temple, ils donnaient, ils s'occupaient des pauvres, ils le montraient, le faisaient savoir. Quand ils priaient très fort pour qu'on dise « Waouh, quelle belle prière !» Et Jésus dit « Très bien, ils ont déjà leur récompense sur la terre. » Mais il dit « J'ai vu une petite veuve qui, elle, faisait une toute petite pièce aux yeux des hommes, une œuvre mini-mini. » Il dit « Mais son attitude de cœur, c'est énorme pour Dieu. » Et elle a sa récompense au ciel. Vous comprenez que des fois, ce n'est pas tant que vos œuvres qui comptent, c'est aussi la façon dont vous les faites. Vous savez, des fois, on peut l'idée de la louange pour l'idée de la louange. On peut faire de la sono pour faire de la sono. On peut installer des chaises pour... Mais gardons notre cœur pur, vous voyez. Analysons toujours notre cœur en disant, « Seigneur, garde-moi humble. Garde-moi fidèle. Garde mon cœur pur pour que je le fasse vraiment avec de bons sentiments. » On va fermer les yeux ensemble. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais mon désir. Tu connais tout de moi. Alléluia, Jésus. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Où est-ce que tu en es ? Déjà, première question, est-ce que tu vas vers le ciel ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton sauveur personnel ? Est-ce que tu as la foi en lui ? Alors il y a quelque chose d'extraordinaire. Même si tu ne sais pas, si tu as du mal à imaginer, tu vas être dans le ciel un jour. Oh Seigneur, il te dira bienvenue, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle, servante, serviteur. Alléluia Jésus. On peut garder les yeux fermés un instant.
Ce que je ferai, seul à t'adorer. l'éternité, je ne peux m'imaginer.
Sur mes genoux, est-ce que je chanterai Alléluia ? Est-ce que je serai saisi par la peur ? Est-ce que mon cœur va-t-il frémir ? Je peux te dire ce qui va se passer en quelques mots. Il y a très peu de choses que la Bible nous dit. Elle dit qu'il y aura un trône et qu'il y aura un avocat extraordinaire. Son nom est Jésus. Et quand dans la file d'attente pour entrer au ciel, tu seras. C'est lui qui t'accueillera. C'est lui qui t'accueillera. Dans la Bible, il y a un passage où on le voit, où on voit juste avant que Étienne ne soit lapidé, il y a le ciel qui s'ouvre, il a une vision, il dit « Je vois le trône de Dieu, je vois Jésus debout. » Et Jésus se lève pour Étienne, et Jésus est debout lorsque Étienne rentre dans la gloire. De la même façon, c'est Jésus qui va t'accueillir. Je voudrais demander à toute personne ici dans ce lieu qui a fait la paix avec Dieu et qui est sauvé, c'est-à-dire qui sait où il va, parce qu'il a décidé, il a choisi que sa foi, il l'a placée en l'œuvre de Jésus à la croix. Il a décidé de le suivre dans les bons et les mauvais jours. Je vais te demander à toi, si c'est ton cas, tu sais où tu vas, de prendre la Sainte-Seine, de te lever maintenant à ta place